Et une nouvelle édition de l'économie en question avant la dernière de la saison. Ce sera le 2 juillet prochain, une émission spéciale autour de Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE, pour un survol de l'année européenne et bien sûr des commentaires sur le choc que a constitué le départ du Royaume-Uni. Mais nous voulons nous aujourd'hui revenir sur le dossier qui a occupé une bonne partie de l'actualité économique et sociale en France, au point d'occulter en partie la timide reprise et peut-être l'amorce d'un recul du chômage, encore à confirmer. Il s'agit bien sûr du projet de loi travail, dit loi El Khomri, toujours en débat au Parlement et qui reviendra devant l'Assemblée nationale à la fin du mois. Ensuite, à moins d'un retrait par le gouvernement, il devrait être définitivement adopté au mois de juillet. Publication au Journal officiel dans le courant de l'été, nous y serons tous attentifs. Le texte a d'abord été présenté, on s'en souvient, au Conseil des ministres en mars, puis devant l'Assemblée nationale le 3 mai. Il a fait l'objet d'une procédure de l'article 49.3 de la Constitution qui a permis de le faire adopter par l'Assemblée en première lecture. Et nous avions eu ici même déjà un débat entre un juriste, il est encore présent aujourd'hui, et deux économistes. Eh bien, nous recommençons en mettant l'accent cette fois peut-être sur les formes que prend la négociation collective dans notre pays, sur ces affrontements entre principaux syndicats, une certaine forme de radicalisation et en creux, bien sûr, la nature, la qualité des emplois concernés. Droit du travail, négociation collective, quel travail veut-on défendre? C'est notre thème aujourd'hui. Et nous sommes en compagnie d'Hélène Périvier, économiste senior au département des études de l'OFCE et également au laboratoire Présage. C'est un programme de recherche, enseignement des savoirs sur le genre, bien utile dans la discussion qui va nous occuper. Thomas Breda, chargé de recherche au CNRS, chercheur affilié à l'école d'économie de Paris et qui a proposé un livre « Les représentants du personnel » aux presses de Sciences Po. Et Emmanuel Doquès, c'est lui le juriste, professeur de droit du travail à Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense. Bienvenue à tous les trois et bienvenue à tous en toute fin d'émission. Notre séquence, ils sont venus avec un chiffre. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Très rapidement, pour évoquer ce que nous avait dit Emmanuel Doquès, donc au tout début de cette dure négociation autour de la loi El Khomri, vous aviez fustigé le texte sur le code du travail actuel. Je rappelle aussi que vous avez entrepris avec d'autres juristes, un certain nombre de chercheurs, de le simplifier, de le réorganiser. Vous avez entrepris pas moins que de le réécrire. Déjà un ou deux articles sont prêts. Vous êtes en train de poursuivre avec les autres et que vous jugez celui-ci à la fois, je cite, prétentieux et creux. Rien que ça, mais condamnant surtout le fait qu'il y avait dans cette complexité, plus que ça, il y avait une absence de discussion, de pluralisme, de place faite à la vraie négociation. On va voir dans un instant ce que Thomas Breda a à dire à ce sujet. Peut-être encore un mot, Emmanuel Doquès, où en sommes-nous aujourd'hui? Vous maintenez tout ça?
Bien entendu. Nous avons un projet. Nous sommes une vingtaine d'universitaires. On essaye d'écrire un code du travail qui soit plus adapté à notre temps, mais qui soit aussi plus protecteur que celui qui existe aujourd'hui. On a actuellement un code du travail qui est extrêmement complexe, que personne ne comprend et que l'on complexifie encore. Le projet de loi travail est un projet de complexification. C'est des centaines de pages qu'on rajoute encore. Plus personne n'y comprend rien. C'est épouvantable. Donc on essaie de simplifier les choses, mais on essaye aussi, contrairement à la direction qui est prise actuellement très clairement encore par le projet de loi travail, donc, qui est une direction de destruction, nous on essaye de construire des protections qui nous semblent adaptées aux difficultés actuelles, parce que les difficultés sont bien réelles et elles sont même assez terribles pour certaines d'entre elles.
Ce n'est pas tout à fait l'avis de Thomas Breda que ce droit du travail est si complexe que ça, ou en tout cas ce n'est pas son principal défaut à vos yeux, Thomas Breda? Oui, d'abord, il y a d'autres droits, celui du commerce ou d'autres dont on ne parle pas autant.
Oui, c'est peut-être pas le principal point que je défends, mais je souscris quand même à l'idée que là, le code du travail est déjà fortement complexe et qu'il va pas être plus simple, puisque le fameux article 2 là dont il est question, qui a pour but d'inverser la hiérarchie des normes, ou au moins partiellement, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse déroger dans les entreprises à la baisse aux protections obtenues via les accords de branche, qui elles-mêmes, protections pourront déroger à la baisse à ce qui est obtenu par le code du travail. Donc ça, c'est quand même le cœur là de ce qui est proposé. Donc pour faire ça, du point de vue juridique, Emmanuel Doquès le dira peut-être mieux que moi, mais on est obligé quand même de garantir toujours un certain nombre de minima, de garanties minimales dans le code du travail, qui encadrent les dérogations possibles par la négociation dans les branches et dans les entreprises. Et donc, on a ces minima, et en l'absence de négociation, on doit aussi fixer un cadre de référence. Donc, il y a maintenant deux références possibles, c'est-à-dire, par exemple, pour la majoration des heures supplémentaires, c'est 25% s'il n'y a pas d'accord. Et s'il y a un accord, on est obligé de dire, oui, on peut déroger à la baisse, mais pas en dessous de 10%. Donc, tout ça fait qu'en fait, ça complexifie le code. Alors, maintenant, pour dire, moi, ma position sur tout ça, plus liée au dialogue social, elle est que on a voulu faire mettre l'entreprise au cœur de la régulation des relations de travail sans réfléchir aux institutions du dialogue social dans les entreprises si elles étaient prêtes pour ça. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où il y a que 10% des établissements d'entreprise qui peuvent signer des accords, qui le font vraiment. Dans les 90% des cas restants, on n'arrive pas à signer des accords d'établissement ou d'entreprise. Donc ça, c'est
pour vous, c'est une aberration. C'est de cela qu'il fallait s'occuper d'abord.
Voilà, exactement. Il y a une étape préalable. Quoi qu'on pense du fait de négocier dans les entreprises ou d'avoir des protections au niveau de la loi, ça, c'est un débat qui est très important. Mais en tout cas, si on veut avoir ce chemin politique de faire de la négociation dans l'entreprise, il faut d'abord s'interroger et savoir si on a les institutions qui permettent de le faire.
Oui. À quoi il faut ajouter les chiffres qui sont assez bien connus, je crois, aujourd'hui. Moins de 8% de salariés syndiqués en France, dans nos entreprises. Mais en revanche, qu'on sait moins, 95% des salariés sont couverts par la négociation collective. Donc on a à la fois un très fort taux de couverture par la négociation collective et un très faible taux de syndicalisation. Et c'est là que pour vous, ça coince. C'est compliqué.
Pas forcément, ça c'est le système français historique, ça peut coincer, mais ces taux de couverture, ils sont en partie factices parce que c'est des accords de branche. Et c'est des accords de branche qui sont parfois, qui ont été conclus il y a fort longtemps et qui garantissent des droits qui sont pas toujours très importants. Mais on a voulu faire en sorte, les pouvoirs publics ont voulu faire en sorte qu'on ait de la couverture partout en France. Mais c'est vrai que les syndicats qui négocient n'ont pas toujours le soutien qui leur permettrait d'avoir l'aval des salariés avec eux et de négocier en étant par ailleurs bien protégés. Il y a aussi beaucoup de discrimination contre les représentants du personnel et notamment les délégués syndicaux qui négocient. Donc on a quelques personnes qui négocient pour un grand nombre dans, sans être
une représentativité,
bien connue et bien reconnue.
Voilà, une représentativité toujours... qui prête à caution. Pardon, Hélène Périvier, puis Emmanuel Dequès.
Juste pour illustrer ce point entre les négociations qui sont menées au sein des entreprises et puis comment on peut les encadrer plus largement au niveau national. Si on regarde les accords sur l'égalité professionnelle, on voit que ceux qui sont signés sont...
Entre hommes et femmes, qui
sont signés dans les grandes entreprises. Alors les femmes sont surreprésentées dans les très petites entreprises et elles ne sont du coup pas couvertes par ce type d'accord. Donc la loi sur l'égalité professionnelle ne joue pas son rôle à plein du fait de cette dissonance entre les différentes formes d'accords et les entreprises qui peuvent les conclure.
Oui, on oublie un peu au passage donc ce problème de l'égalité professionnelle, en clair. Oui. Emmanuel Dequès.
Il est très clair que le projet de loi dans son organisation, c'est quelque chose qui donne plus de force à la négociation collective, donc en fait plus de possibilités aux très grandes entreprises qui ne sont absolument pas répercutées pour les petites entreprises. Ce sont des lois qui sont faites pour la grande entreprise, pour le très grand patronat et pas pour la petite entreprise. Donc là, on a quelque chose qui est très net. Mais ce que je voulais rebondir, c'était sur la représentativité des organisations syndicales. On a un effet d'optique qui est particulier, c'est ces 8%. En fait, maintenant, on compte 11% en fait de syndiqués actuellement en France.
Il y a une différence entre public et privé.
Oui, mais tout compris, ça fait 11%.
Tout compris, ça fait 11, d'accord.
Mais bon, ça reste très très bas. Ça reste un des pays les moins syndiqués de tout l'OCDE, donc c'est tout à fait bas. Mais on a un effet d'optique en fait en France, et ça, pour le coup, Thomas Breda sera tout à fait d'accord. Se syndiquer, c'est prendre le risque d'une certaine discrimination syndicale. C'est difficile de se syndiquer. Alors que dans d'autres pays, si vous vous syndiquez, c'est un acte absolument banal qui vous permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages.
C'est même encouragé.
Et certains même le font pour avoir des avantages de base. En fait, si vous comptez le nombre de militants, c'est quelque chose qui est assez peu fait. Si vous regardez le nombre de militants dans les pays scandinaves qui ont des taux de syndicalisation de 80% et le nombre de militants qu'on a, nous, en France, vous apercevez qu'on a largement autant de militants en France que ce qu'on a dans les pays scandinaves. En fait, les organisations syndicales françaises ne sont pas moins dotées en militants que les organisations syndicales scandinave. Et ça, c'est tout à fait important. Ça permet d'expliquer qu'on a un syndicalisme qui est présumé faible et qui, en réalité, est un syndicalisme assez fort en France. D'ailleurs, les capacités de mobilisation actuelles le démontrent.
Comment expliquer qu'en France, ça fait quasiment 60 ans qu'on essaie d'instaurer un dialogue social? Si l'on remonte un peu dans l'histoire de notre pays, il y a eu d'innombrables mesures qui ont été prises, y compris, bien sûr, ces deux derniers gouvernements. Thomas Breda, vous revenez, vous aussi, là-dessus?
Oui. Alors moi, je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que les
c'est effectivement, une malédiction, comment l'expliquer ?
Depuis l'après-guerre, les pouvoirs publics font tout ce qu'ils peuvent pour donner des droits et encourager la négociation dans les entreprises. On multiplie les instances, comités d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel.
CHSCT sont les comités d'hygiène et de santé.
Et sécurité, de santé au travail. Délégués du personnel qui sont pas exactement pareils que le comité d'entreprise. Ensuite, délégués syndicaux, ceux qui négocient. On a également du pluralisme syndical, avec beaucoup de syndicats dans les entreprises. Donc on a donné beaucoup de droits, mais on a par là même aussi organisé la faiblesse de la représentation collective et du syndicalisme français, parce qu'on n'a pas donné des protections adéquates qui permettent aux représentants d'avoir des bonnes carrières, et qui donnent des vraies incitations aux salariés de s'engager dans le syndicalisme ou la représentation du personnel, d'une part, et d'autre part, on ne donne pas l'assise démocratique locale qui permet de s'assurer le soutien des salariés en local. Les enquêtes montrent qu'il y a beaucoup d'entreprises où les salariés sont relativement insatisfaits de leurs représentants. Alors c'est parce qu'ils connaissent mal le travail de ces représentants, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de les élire tout à fait dans des bonnes conditions. Alors il y a des élections, mais c'est des élections plus faibles que ce qu'il y a dans d'autres pays. Donc en donnant énormément de droits, on a en fait paradoxalement affaibli la représentation des salariés dans les entreprises.
Emmanuel Dockès.
Oui, on a des problèmes de représentation, c'est certain, mais quand vous regardez les problèmes de représentation politique qu'on a, qui sont absolument monstrueux, et la défiance qu'on a par rapport au personnel politique, vous apercevez que la défiance qu'on a par rapport aux organisations syndicales est plutôt de moins importante. On a des difficultés, mais le lien entre les organisations syndicales et les salariés qui sont représentés n'est pas si mauvais que ça. Et nos organisations syndicales sont faibles sur le papier avec nos 11%, mais elles sont pas si faibles que ça. Je vous assure qu'actuellement, on regarde partout en Europe et partout on se demande mais comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir de pareilles forces syndicales. Donc le syndicalisme français est paradoxal. Il est paradoxal, il est fort et faible à la fois, et c'est là qu'il y a sans doute un secret du bon fonctionnement paradoxal de notre système, parce qu'on a quand même un contrepoids qui existe, certes améliorable, certes qui peut progresser, mais qui ne doit pas être sous-estimé, et le lien existe quand même.
Si l'on résume ce que vous souhaitez faire, mais je reprends une phrase que vous avez donnée, je pense, dans une interview, dans votre nouveau droit du travail, que vous révisez systématiquement, article par article. J'y reviens, là, vous avez déjà travaillé sur le temps de travail, vous préparez le contrat, justement.
Alors, si vous voulez, on a...
Je voulais résumer, la formule que vous avez utilisée, dites-moi si vous allez toujours... En gros, vous voulez rendre plus cher le fait de faire travailler davantage. Il me semble que c'est quand même au cœur de cette loi dont nous parlons. Et de quel emploi nous voulons parler ?
Oui, très clairement. Cette loi est une loi qui favorise l'augmentation du temps de travail et qui favorise l'augmentation du temps de travail à bas coût. Alors, en ce qui nous concerne, on n'est pas sur des modes prohibitifs, c'est-à-dire qu'on ne veut pas interdire aux gens de travailler beaucoup, si dans certains cas ça peut être utile à la fois pour l'entreprise et les salariés qui le souhaitent. Ce qui nous semble important, c'est que ces heures qui sont travaillées au-delà de 35 heures soient des heures qui soient chères pour inciter les employeurs à embaucher plutôt plus de salariés plutôt que d'avoir moins de salariés qui travaillent plus. Si vous laissez le choix à un employeur, l'employeur préférera toujours avoir moins de salariés qui travaillent plus que plus de salariés qui travaillent moins.
Partage du travail, alors.
Et l'objectif de partage du travail est absolument crucial dans un pays comme le nôtre où le chômage fait rage et quelque chose d'absolument dramatique.
Hélène Périvier.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'esprit de la loi des 35 heures. C'est partager le travail sur une base collective. D'ailleurs, si on regarde le partage du temps de travail et les politiques publiques qui ont été mises en place en France pour essayer de lutter contre le chômage, les premiers types de mesures qui ont été prises dans les années 90, c'est plutôt le temps partiel, alors qu'il était quasi inexistant en France, avec cette idée que deux travailleurs à temps partiel, ça fait toujours un chômeur de moins. Résultat, on voit que ça s'est concentré sur les travailleurs non qualifiés et sur les femmes essentiellement. Donc ça a été source d'inégalités très fortes entre les travailleurs. Au moins, la loi sur les 35 heures permet d'avoir une assise collective du partage du temps de travail, et l'idée de rendre toute heure supplémentaire, parce que c'est bien là que le débat se situe, le nombre d'heures légales, c'est combien on fait payer en plus quand on veut faire travailler plus que ce nombre d'heures-là, il est absolument fondamental pour créer des incitations auprès des employeurs, d'abord à embaucher davantage et puis à être plus responsable. On le voit aussi au niveau des travailleurs à temps partiel et de la question des heures complémentaires. Ça devrait être indispensable de rendre les heures complémentaires, c'est-à-dire les heures supplémentaires réalisées par un travailleur ou une travailleuse à temps partiel, qui doivent coûter beaucoup plus cher à l'employeur, pour l'inciter à avoir un contrat de travail qui offre un volume d'heures le plus large possible. Or là, on est vraiment dans dans une tendance qui va à rebours de cette logique-là et qui est plutôt sur le mode de la flexibilité plutôt que celui de la souplesse. Donc la souplesse, elle existe. Là, ce qu'on est en train de créer, c'est de la flexibilité, c'est-à-dire ça coûtera moins cher, donc autant offrir un contrat de travail à très court terme et puis rajouter des heures supplémentaires ou complémentaires qui coûteront pas bien cher.
Oui, mais encore une fois, en permettant à ceux qui le souhaitent de travailler davantage, ça ne l'empêche pas.
Mais
ça.
Ils le peuvent aussi, même quand on les fait payer plus cher.
Bien sûr. Par exemple, ce qui est, pour prendre un exemple qui est tiré du texte de loi, pour qu'on parle un peu du texte de loi aussi, précisément, c'est la triannualisation du temps de travail, qui est quelque chose de tout à fait abasourdissant. C'est la possibilité qui
a... De mon point de vue.
Oui, bah, de mon point de vue, de pas mal d'autres, je vous assure.
C'est la
possibilité, d'ailleurs, vous allez être convaincu tout de suite, je vais vous expliquer.
Bah,
c'est la possibilité de calculer les heures supplémentaires sur 3 ans. C'est-à-dire que pour savoir si vous allez toucher une heure supplémentaire, vous allez faire la moyenne du temps de travail que vous avez fait sur 3 ans. Et si vous dépassez 35 heures par semaine en moyenne sur 3 ans, vous toucherez des heures supplémentaires. Ça veut dire que vos heures supplémentaires, vous les toucherez, non, si vous en faites par exemple en 2016, vous les toucherez pas en 2017, pas en 2018, pas en 2019, parce qu'il faut attendre 3 ans pour faire la moyenne, pour savoir si vous avez droit à une heure supplémentaire. Ça fait 3 ans de délai de paiement pour toucher les heures supplémentaires, si vous arrivez à les prouver. Parce qu'en réalité, vos heures supplémentaires, vous n'arriverez jamais à les prouver sur 3 ans. C'est un moyen qui est vraiment offert par la loi, par le projet de loi El Khomri, et qui est offert pour ne pas payer les heures supplémentaires. Alors, vous êtes convaincu?
Je ne suis pas censé me prononcer, Thomas Breda.
Oui, il y a un truc que j'aime bien rappeler quand même en général, c'est que cette loi s'inscrit dans un contexte d'inégalité croissante face à l'emploi. On a... Dans les pays qui ont mis plus de flexibilité...
J'allais vous proposer, regardons un peu ailleurs ce qui se passe. Nous sommes tous très préoccupés par l'Europe ces jours-ci.
Avec plaisir. Du coup, on voit que dans quasiment tous les pays développés, les inégalités de salaire augmentent. En France, on a la seule exception existante dans les pays développés, les inégalités de salaire diminuent. En revanche, on a ce problème de chômage structurel, de longue durée, depuis plus de 40 ans, qui augmente. Mais c'est la manifestation française d'un phénomène plus global, qui touche toutes les économies développées, liées à la mondialisation, aux nouvelles technologies qui ont tendance à favoriser les salariés qualifiés au détriment des salariés peu qualifiés. Donc c'est bien documenté, bien connu. Mais en tout cas, c'est une manifestation française d'un problème général. Alors les pays, mettons, prenons l'Allemagne, le miracle allemand, qui sont parvenus à mettre fin au chômage, ont connu une forte hausse des inégalités et de la précarité au travail, avec des emplois très peu qualifiés. Les Allemands ont fait les mini-jobs, par exemple, des emplois à 400 euros, qui ont un succès absolument énorme aujourd'hui. Il y a plus de mini-jobs en proportion en Allemagne qu'il y a de CDD aujourd'hui en France. Hein. Donc, ils ont fait aussi des emplois précaires à leur manière. Et ça a fait une augmentation de 10% des inégalités de salaire en Allemagne en 10 ans.
Voilà. Ce qui ne reste pas, qui n'est pas encore le cas en France.
Oui, la question des mini-jobs, elle va encore bien au-delà de ça, parce que les mini-jobs, c'est des emplois qui coûtent pas cher parce qu'il y a très peu de cotisations sociales, mais derrière, il y a très peu de droits sociaux. Et donc, les personnes qui sont dans ce type d'emploi, non seulement sont dans des emplois précaires, mais sont quasiment hors du système de protection sociale. C'est très intéressant dans le cas de l'Allemagne, qui est un système bismarckien, dans lequel on nous dit que les négociations entre les partenaires sociaux sont très fortes. Et là, typiquement, on a sorti, pour lutter contre le chômage, une partie des employés de ce système-là, donc ils sont hors protection, hors système.
Si l'on revient là au droit du travail, là je me retourne à nouveau vers le juriste Emmanuel Dauquès, est-ce que on nous dit souvent quand même, on a le sentiment que les syndicats travaillent sur des, enfin ça s'intéresse essentiellement aux emplois en CDI, aux emplois déjà instaurés, installés et bien protégé, ça a été dit aussi par Thomas Breda d'une certaine manière en parlant de la représentativité syndicale. Mais vous, vous parlez tous d'autres emplois, des emplois précaires. Donc, dans votre nouveau droit du travail, seraient les modifications significatives à ce sujet?
Alors, pour être très précis et très honnête, nous allons présenter ça le 8 juillet prochain.
Donc vous ne pouvez pas encore nous le dire.
Pour l'instant, je ne peux pas vous dévoiler absolument tout le cœur de notre propos. Mais je peux vous dire que...
Vous êtes d'accord que le droit du travail actuellement est quand même...
Alors, actuellement, le droit du travail ne fonctionne pas. Nous avons très clairement d'abord une multitude de contrats précaires qui est absolument invraisemblable. Et qui sont en fait on est comme dans un système de tête de gondole, si vous voulez. Mmh. On a du salarié pas cher, du salarié à. C'est un peu le principe des mini-jobs. On vous fait du salarié pas cher, dégradé, peu de salaire, peu de protection sociale, peu de protection contre le licenciement. On voudrait, pour lutter contre le chômage, redécouvrir quelque chose qui a à peu près disparu en France, c'est l'emploi à plein temps misérable. la grande misère de la personne qui pourtant travaille à plein temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé d'éradiquer en France, et pour ça on a créé une règle qui s'appelle le SMIC, pour que les gens qui travaillent à plein temps ne tombent pas dans une très grande misère sociale. Et c'est quelque chose qui dans d'autres pays existe. Vous avez des personnes qui travaillent à plein temps, et parfois c'est des gros plein temps, c'est pas des 35 heures, c'est des 40, des 45 heures, et qui n'ont pas de quoi se loger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui sont dans vraiment des situations de misère épouvantables. Est-ce qu'on veut que ce type de possibilité arrive en France avec la concurrence que ça créera pour nos emplois qui sont à peu près des emplois dignes, des emplois décents? Moi, je pense qu'il faut faire très attention. L'OIT dit qu'il faut des emplois... L'Organisation Internationale du Travail dit qu'il faut des emplois décents. Je crois que c'est très important. Je crois qu'on veut effectivement développer l'emploi, il faut combattre le chômage, mais si c'est pour avoir des emplois qui sont payés moins que le RSA, c'est pas une solution. Notre objectif, c'est de développer l'emploi, mais de développer aussi l'emploi décent.
Thomas Breda, revenons sur la négociation et sur la présence de la représentativité. Quand on débat dans une entreprise, il y a le directeur d'une entreprise, le patron, celui qui la représente, qui lui représente ses... Je parle là des grandes entreprises que vous avez les uns et les autres mis en avant à partir de cette loi, qui représente donc les actionnaires. Voilà. Et en face ?
Et en face, vous avez les représentants du personnel qui représentent les salariés, absolument.
Avec une nuance de taille, c'est quoi? C'est laquelle? C'est que les actionnaires, le directeur représente ses actionnaires, donc les protège d'une certaine manière, ce qui n'est pas forcément le cas. Je veux dire, les salariés n'ont pas tout à fait la même.
Oui, ah oui.
Ne alors, peuvent alors, pas compter sur le même.
Oui, moi ce que j'ai.
La même sécurité.
La vision générale de mon programme de recherche, quand je fais cette comparaison-là, c'est pour dire. On s'est beaucoup intéressé à la gouvernance d'entreprise, des recherches économiques. Ça fait 20 ans qu'on essaye de bien réfléchir à la façon dont l'intérêt des actionnaires ou des détenteurs du capital sont bien représentés par le dirigeant de l'entreprise. On a créé des stock options, on a créé des mécanismes incitatifs de rémunération. On a fait tout un tas de choses pour que les dirigeants d'entreprise aient des incitations qui soient vraiment les mêmes que les actionnaires. Du côté de la représentation des salariés, on n'a pas fait tout ça.
Voilà, j'ai mal posé ma question. Ce qui veut dire que le dirigeant d'entreprise, d'une certaine manière, il est sous l'autorité de ses actionnaires.
Il est sous l'autorité de ses actionnaires. Alors,
du côté des salariés,
il y a plusieurs difficultés.
Une
difficulté fondamentale, c'est que le représentant des salariés, lui, il est sous l'autorité de l'employeur comme salarié. C'est aussi un salarié de l'entreprise. Donc ça crée des situations très difficiles où l'employeur peut avoir intérêt... acheter la paix sociale, par exemple, en essayant d'acheter le représentant du personnel, ça se voit, ça fait les choux gras des médias à chaque fois que ça se passe. Ou, à l'inverse, s'il tombe sur un représentant du personnel peu conciliant, le discriminer pour stigmatiser l'action de ce représentant du personnel, éviter que les salariés soutiennent cette action et s'engagent dans le militantisme ou la défense des intérêts des salariés. Donc ça, c'est l'un des problèmes. Et plus généralement, quand même, on a aussi besoin de réfléchir à toutes les manières dont on pourrait faire en sorte que les représentants des salariés aient bien toutes les bonnes incitations à représenter leurs collègues et soient aussi remerciés lorsque arrivent à avoir toutes les bonnes gratifications lorsqu'ils font bien leur boulot et représentent correctement leurs collègues.
Avec la question de la discrimination, je crois que vous l'avez déjà évoqué, qui peut dissuader aussi la représentation des salariés.
Voilà, et quand je disais il y a 10% seulement des entreprises où on négocie, l'une des causes à cela, c'est que dans 2/3 des entreprises, il n'y a personne pour négocier. Personne ne veut faire ce boulot-là, il n'y a pas de candidat aux élections professionnelles, parce que, et ça les enquêtes le disent, les salariés ont peur des représailles. On s'engage.
Alors comment améliorer, parce que c'est bien ça le point central de votre thèse, enfin du travail que vous proposez, vous dites c'est par cela qu'on aurait dû commencer. S'intéresser d'abord à cette négociation au sein de l'entreprise, avant de vouloir créer cette loi travail.
Bah oui, parce qu'on ne peut pas dire...
Alors quelles sont vos suggestions, pour en citer une ou deux ?
Pour en citer une ou deux, la première, c'est de revaloriser la carrière des représentants du personnel. On ne peut pas dire qu'on va faire... ils vont être au cœur, encore une fois, je me répète un peu, mais de la négociation de la régulation du travail avec des représentants qui sont peu valorisés dans notre société. Donc il faut revaloriser les représentants. Et si on fait ça... on va engager un cercle vertueux par lequel on va avoir plus de candidatures. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir candidater, ou en tout cas davantage qu'aujourd'hui. Les salariés auront davantage le choix lors des élections, donc ils pourront probablement voter peut-être aussi parfois pour des candidats qui les représentent mieux, ou ils considèrent qu'ils les représentent mieux. Et on va avoir comme ça un cercle vertueux avec des représentants ensuite mieux protégés. Les employeurs auront moins les moyens de les acheter ou de les discriminer parce que les salariés seront plus derrière eux, etc., etc.
On voit à quel point, avec la perspective de ce fameux article 2, ce que vous êtes en train de nous dire peut être important.
Bah oui.
Oui, alors ça, Emmanuel Decaisse. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est absolument évident. Il faut absolument trouver des solutions pour mieux protéger les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour tout ce que vous venez de dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, cette protection repose presque exclusivement et c'est sur un personnage qui est l'inspecteur du travail. C'est l'inspecteur du travail qui a entre les mains la protection normalement de ses représentants du personnel, notamment face au licenciement et face à ces difficultés-là. Il conviendrait de renforcer l'inspection du travail, notamment dans cette mission absolument cruciale, surtout dans un projet de loi comme celui-ci, qui vise à développer la négociation collective. On devrait en profiter pour renforcer le rôle de l'inspection du travail dans la protection des représentants syndicaux et des représentants du personnel. Il faut savoir que dans le projet de loi travail, c'est exactement le contraire qui a lieu, puisqu'on a créé une nouvelle obligation qui pèse désormais sur les inspecteurs du travail, qui est de répondre en engageant l'État de répondre à toutes les questions de droit qui pourront être formulées par les employeurs. Ce qui fait que vous avez une sorte de rescrit social. Tout employeur pourra demander une question juridique aux inspecteurs du travail. Bon, très bien, c'est pas une mauvaise idée. Ça va donc, il y a toute une partie du corps de l'inspection du travail qui va être donc désormais mis au service des employeurs pour faire une information juridique. En soi, c'est une très bonne chose, mais ça vous enlève des emplois. Et si ça vous enlève des emplois, pendant ce temps-là, ils n'ont plus le temps de faire d'autres missions. Et les autres missions, c'est la santé et la sécurité et la protection des représentants du personnel. Donc, on est en train d'abaisser des fonctions essentielles de l'inspection du travail au moment même où on devrait les renforcer. On a là une forme de contradiction très grave, à mon avis.
Les derniers mots sur ce thème, avant de passer déjà à nos actualités.
Oui, alors juste sur la question de la discrimination, certaines organisations syndicales, notamment la CGT, l'avaient beaucoup fait, ont mis en place des procédures pour essayer de montrer à quel point les représentants syndicaux sont discriminés, et ils l'ont fait en utilisant les techniques qui étaient mobilisées pour montrer des cas de discrimination sur la base du sexe, qui étaient beaucoup de revendications. Il y a ce fameux cas de la BNP, de cette cadre qui a poursuivi la BNP et qui a d'ailleurs été jugée comme avoir eu raison.
Cause. Oui.
Et ces techniques-là sont mobilisées par les organisations syndicales pour essayer de mettre à jour cette forme de discrimination. Manifestement, ça ne suffit pas pour rendre ce type de position suffisamment attractive, mais c'est quand même des choses qu'on pourrait imaginer être développées pour essayer de lutter contre ce phénomène de repoussoir que sont s'investir dans la négociation au sein de son entreprise.
L'action de groupe en matière de discrimination aussi, il aurait fallu mettre une véritable action de groupe en
matière
de discrimination.
Exactement, c'est aussi un levier extrêmement important, un levier juridique qui permet de s'organiser et de ne pas être seul face à son employeur.
Merci. Pardon, tout dernier mot, Thomas Breda,
Oui, absolument. Mais il faudrait même faire en sorte que ce soit lutter a posteriori par rapport aux discriminants, de faire en sorte a priori qu'il n'y ait pas de discrimination, que les institutions garantissent ça.
Merci pour tous ces jugements, tous ces commentaires sur le fonctionnement interne de la négociation collective qui nous a bien occupés ces dernières semaines. Avez-vous un chiffre, tenez, Thomas Breda?
Oui, absolument.
Alors, d'actualité.
Chiffre d'actualité, c'est 6 milliards, c'est ce que reçoit le Royaume-Uni en budget de recherche de l'Union européenne. Donc l'Union européenne finance la recherche sur projet, et nos amis du Royaume-Uni sont très très bons pour répondre à ces projets, parce qu'ils parlent très bien anglais d'une part, et ensuite parce qu'ils ont l'habitude de financer leur recherche comme ça. Et donc ils obtiennent presque les deux tiers des 10 milliards alloués chaque année par l'Union européenne.
Oui.
Des budgets de recherche, et donc c'est ce qui maintenant ils n'obtiendront plus du coup.
Et c'est de l'argent qui nous reviendra
de leur sortie. Donc ils vont faire des économies, mais peut-être pas tant que ça. Voilà.
Merci beaucoup, bien trouvé, Hélène Périvier, votre chiffre.
Alors moi, j'avais d'abord un chiffre 90 versus 55. C'est un chiffre qui nous dit que 90% des enfants issus de milieux favorisés sortent du primaire avec les acquis attendus en mathématiques, contre 55% des enfants issus de milieux défavorisés, ce qui nous montre le gap très important qu'il nous reste à franchir pour avoir un système scolaire qui permet de produire de l'égalité.
Merci. Pas d'autres chiffres pour l'instant?
Si, je peux vous en citer un autre sur le Brexit.
Alors très vite, très vite.
Moins 34%, c'est le décrochage de l'action Eurotunnel à la suite de l'annonce du Brexit. Alors vont-ils fermer le tunnel? En tout cas, les marchés s'inquiètent beaucoup de l'avenir de cette entreprise.
C'est peut-être une première réaction. Enfin, c'était dès l'annonce que ça a chuté à ce point-là. Emmanuel Decaisse, enfin, et on termine avec
moi,
vous.
C'est 11,4 ans. 11,4 ans, c'est l'ancienneté moyenne des salariés en France. Et c'est un chiffre qui est en hausse, figurez-vous. on nous dit tout le temps que l'emploi stable est en train de disparaître. C'est complètement faux. L'ancienneté moyenne est de 11,4 ans et elle monte dans la plupart des pays de l'OCDE. En réalité, l'emploi stable ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est la stabilité des statuts. On nous fait des statuts précaires, mais en réalité, l'emploi stable augmente. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur le juriste Emmanuel Dokes, professeur de droit du travail. Nous avons reçu aussi Thomas Breda, économiste à l'école d'économie de Paris, et Hélène Périvier. Merci à tous les trois. À Ghislaine David qui réalise l'émission en compagnie de Bruno Gagnère-Fontanier aujourd'hui, à Laurence Genepin bien sûr pour la préparation, la documentation et comme je l'ai dit en ouvrant, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour notre toute dernière émission de la saison et ce sera bien sûr autour de l'Union Européenne et bien sûr autour du Royaume-Uni en compagnie de Benoît Queret, directoire de la BCE. Très très bonne journée à tous, à samedi prochain.